c'est l'heure maintenant de nous intéresser eh bien, à un dossier fort intéressant, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme sur les campus américains. Il y a du mouvement d'ailleurs dans ce dossier et on en parle ce matin avec Isaac Franco, analyste politique et bien sûr chroniqueur bien connu de vous toutes et tous qui nous écoutez, puisque c'est l'animateur et chroniqueur de Chercher l'erreur tous les lundis entre 17 et 18 heures. Voici donc l'avis d'Isaac Franco sur ce mouvement et contre l'antisémitisme sur les campus américains. Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Isaac Franco.
Bonjour Lucie.
On va commencer par l'Université Columbia. L'Université Columbia a pris récemment des mesures à l'encontre de ce phénomène. Par exemple, elle a décidé d'adopter une définition de l'IRA dans ses politiques internes. Alors ma première question, Isaac Franco, pouvez-vous nous rappeler cette définition, nous expliquer ses implications ? Est-ce que c'est un pas en avant ou juste un vœu pieux ?
Je ne sais pas si c'est un vœu pieux, ça va dans le bon sens, mais il faut que ce soit confirmé par des actions plus concrètes que celle-là. La définition de l'IHRA, c'est cite 11 occurrences où on est face... C'est une ambition de définir l'antisémitisme dans son expression contemporaine. Par exemple, la diabolisation de l'État juif, la nazification de l'État juif, c'est de l'antisémitisme. Comparer ce que fait l'État juif pour se défendre au régime nazi, c'est une forme d'antisémitisme. Et donc, il y a une série comme ça d'occurrences qui montre qu'on est dans le champ de l'antisémitisme, réserver à Israël un double standard, un jugement qui ne pèse pas de la même manière sur les autres États, mais qui pèse exclusivement sur l'État juif, c'est également de l'antisémitisme. On est souvent dans l'antisémitisme ces derniers temps, pas seulement d'ailleurs sur les campus, dans les chancelleries, dans les rues, dans les médias, on est souvent dans une insulte à la définition de l'antisémitisme par l'IHRA. Donc l'adoption par Columbia de cette définition va dans le bon sens, mais il faudrait bien plus que cela, tant le climat sur Columbia, qui était l'épicentre de la détestation, de la diabolisation, de la nazification d'Israël pendant tous ces mois passés, a été forte. Donc il faudra autre chose que cela. Je rappelle que l'actuelle présidente, par intérim d'ailleurs, de Columbia, elle s'appelle Claire Shipman, c'est la troisième personne qui a été nommée à ce poste depuis moins de deux ans, qu'un professeur de Columbia qui s'appelle Joseph Massad a célébré la geste du 7 octobre en disant que ce sont des héros qui ont fait le 7 octobre, qu'il faut glorifier ce qu'ils ont fait. Eh bien, il est toujours en poste, Et il enseigne l'histoire d'Israël. Mmh. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc il y a manifestement pour l'instant un grand écart, des bonnes intentions, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Donc ce n'est pas suffisant, manifestement, après la complaisance apportée par les autorités académiques à l'explosion de l'antisémitisme sur leur campus.
Alors l'enjeu principal, on le comprend bien, hein, c'est quand même de rétablir la confiance et de garantir la sécurité des étudiants juifs sur le campus de Columbia. Donc selon vos propos, pour vous, c'est pas suffisant pour atteindre cet objectif.
Non, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faudra bien autre chose. Je rappelle également que Columbia était le réacteur nucléaire de l'antisémitisme sur les campus. Columbia a donné le « là » à tout ce qui s'est passé à Berkeley, à ce qui s'est passé à Harvard, dans toutes les autres grandes universités de l'Ivy League. C'est parti de Columbia. Il y a eu une insécurité absolue pour les étudiants juifs ou israéliens qui s'y trouvaient. Donc il faut rétablir cette sécurité. Et les mesures prises par les autorités académiques jusqu'à ce jour sont insuffisantes. Alors, je comprends que Columbia cherche à rentrer dans les grâces de l'administration américaine parce qu'il s'agit de gros sous et que l'administration américaine a gelé un certain nombre d'argent étendu aux universités parce que Columbia a manqué au respect du titre 6 de la loi de 1964 sur la discrimination. On ne s'est pas du tout soucié de la sécurité des étudiants juifs ou israéliens sur ce campus. Donc c'est un long travail, c'est un long chemin, et c'est sous la contrainte financière seulement que Columbia, eh bien, cherche à trouver un accord avec la Maison Blanche.
Alors, en revanche, vous parlez de contraintes financières. Il y a une université qui, elle, continue ce bras de fer, a décidé de continuer ce bras de fer avec l'administration Trump. C'est l'université de Harvard, dont le président Alan Garber dénonce une campagne de pression pour contrôler ses programmes académiques et a annoncé une audition qui se tiendra donc en ce début de semaine afin de lever le gel de ces 2,4 milliards d'euros, si je ne m'abuse,
de
subventions. Est-ce que ça pourrait faire précédent?
Je sais pas, mais je trouve cette inversion accusatoire à quelque chose de totalement indécent. On accuse la Maison Blanche de faire pression sur les autorités académiques et d'exiger des changements dans leur mode de fonctionnement. D'enrôlement de professeurs, de lois sur la discrimination, sur les minorités, etc. Je veux dire, encore une fois, à Harvard, qui est la plus prestigieuse d'entre les prestigieuses universités américaines, on a manqué au respect du titre 6 de la loi de 1964 sur la lutte nécessaire contre la discrimination envers les minorités, en l'occurrence la minorité juive. On a abandonné les étudiants juifs, on a abandonné les étudiants israéliens à la plus parfaite insécurité dont l'indifférence pratiquement des autorités académique. Alors aujourd'hui, on vient accuser la Maison Blanche de vouloir peser sur les programmes académiques et de mettre en danger tous les programmes de recherche, le millier de programmes de recherche en privant Harvard de 2,4 milliards de dollars de subventions. Il faut savoir une chose, ces subventions, qu'il s'agisse de Harvard, de Columbia ou de Berkeley ou de n'importe quelle autre américaine, université américaine, c'est pas un droit, c'est un privilège. C'est un privilège. Et l'administration américaine est parfaitement dans son droit de dire ben, « j'arrête de financer parce que vous respectez pas un engagement, une loi de 1964 qui vous oblige à assurer la sécurité de tout citoyen qui se trouve, de tout étudiant qui se trouve sur votre campus, singulièrement pour toutes les minorités ». Au départ, c'était pour la minorité noire, mais pas seulement, pour la minorité portoricaine, pour la minorité asiatique, pour la minorité juive. Eh bien, vous avez manqué à ce devoir de protection. Et donc, je vous prive de ces subventions. Mais maintenant, vous avez Harvard qui attaque la Maison Blanche devant un tribunal de Boston, dirigé par un juge ou une femme juge qui a été nommée par Obama, qui va écouter les doléances des uns et des autres. Je trouve plutôt piquante cette inversion accusatoire.
Moi, je vois un autre problème dans ce sujet, c'est cet amalgame de lutte, disons, cette espèce de confusion entre les différents problèmes. Parce que quelque part, quel que soit ce bras de fer, à la fin, on parle d'un procès d'anthologie et pourrait un peu nuire à l'enjeu principal qui est la lutte contre l'antisémitisme en général.
Alors, je sais pas si ça va nuire à la lutte contre l'antisémitisme. Je pense le contraire. Je pense au contraire que cette action de l'administration, en menaçant de priver de subventions ces universités, ça va dans le bon sens. C'est la seule manière de les ramener à la raison. Alors, les 2,4 milliards sont nécessaires à Harvard pour alimenter, pour financer les différents projets de recherche qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'antisémitisme, hein, savoir la lutte contre le cancer, l'intelligence artificielle. Effectivement, ils vont être pénalisés. Mais je veux dire, il ne tient qu'aux autorités académiques de remplir leur devoir, d'assurer la sécurité de tous les citoyens, de tous les étudiants, juifs compris, qui ont été littéralement abandonnés à leur sort. Je veux dire, vous ne pouvez pas prétendre à des subventions qui sont un privilège garanti par le pouvoir fédéral, faire comme si c'était un droit, et en plus de ça, c'est un procès de riches. C'est un procès de très très riche. Harvard repose sur une fortune de 52 milliards de dollars. Hein. 52 milliards de dollars. Un fonds d'investissement de Harvard, c'est 52 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas s'en servir pour financer les recherches. Mais ce sont des gens qui sont extraordinairement riches. Et accuser l'administration américaine.
On pourrait arguer que du coup, ils n'ont pas forcément besoin de ces subventions-là.
Alors, je répète, ils ne peuvent pas utiliser les 52 milliards de dollars pour financer les programmes de recherche. Ils ont besoin des subventions fédérales. Mais ce que je note, c'est ouais, j'ai perdu le fil de ma pensée tout à l'heure, mais c'est cette incroyable toupée de cette université qui poursuit le gouvernement parce que il ne consent pas, parce qu'il accuse l'administration américaine de se servir de la lutte contre l'antisémitisme comme d'un prétexte pour en réalité faire pression sur les universités américaines en général. Vous imaginez, l'ambition première de l'administration américaine, c'est de lutter contre l'antisémitisme sur le campus et pas sur les campus. Eh bien, l'administration américaine est accusée de se servir du prétexte de la lutte contre l'antisémitisme pour, en réalité, contraindre les universités à lutter contre le wokisme. C'est cela. C'est ça le débat. Et c'est pour ça que c'est un débat intéressant et qui aura certainement des conséquences à examiner de près. Mais ce problème de la maladie des universités, elle n'est pas que américaine. Vous avez eu ça à l'ULB avec...
C'est ce que j'allais dire, oui. Est-ce que ça va pas essaimer justement en Europe?
Mais ça a déjà essaimé. La fièvre antisémite de Columbia, de Harvard, de Berkeley, de New York City University, ça a largement débordé les frontières américaines. C'est arrivé à la Sorbonne à Paris, on l'a vu. À l'ULB, qui a nommé un de ses bâtiments du nom d'un terroriste, Walid Dacca.
On reviendra de toute manière sur ce dossier, comme vous l'avez mentionné. Merci beaucoup pour cet éclairage. À
Avec
très
plaisir.
Bientôt.
Au revoir.